il avait éteint le plafonnier et laissé une seule petite lampe de chevet allumée. Cela lui paraissait préférable. Puisque la chose ne se déplaçait que la nuit, mieux valait garder la pièce le plus sombre possible. Oshino préférait en finir le plus rapidement possible. « Allez, si tu dois apparaître, dépêche-toi de le faire !» s'impatientait-il. « Réglons cette histoire au plus vite. Après, je rentre à Nagoya et je téléphone à une fille. » Le jeune homme ne s'adressait plus à la pierre. Il gardait le silence et se contentait de jeter un coup d'œil de temps à autre sur sa montre. Quand il s'ennuyait trop, il prenait les couteaux ou le marteau et donnait quelques coups dans l'air. S'il devait se passer quelque chose, se disait-il, ce serait sans doute au beau milieu de la nuit. Mais on ne pouvait pas prévoir. Et si jamais la chose se montrait plus tôt, il ne devait pas la manquer. Cela n'arrivait qu'une fois tous les 1000 ans, après tout. Ce n'était pas le moment de se laisser aller. En attendant, il grignota un cracker et but une gorgée d'eau minérale. « Hé, la pierre » appela-t-il à voix basse quand il fut minuit passé. « Minuit, l'heure du crime. C'est maintenant que les démons sortent de leur tanière, non ? Le moment de vérité approche. Ouvrons l'œil tous les deux. Et le bon !» Il posa sa main sur la pierre. La surface lui parut un peu plus tiède que d'habitude. Ou était-ce seulement une impression ? Il la caressa plusieurs fois de la paume, comme pour se donner du courage. « Toi aussi, soutiens-moi moralement, hein ? J'en ai besoin, tu sais !» Il était un peu plus de 3 heures du matin quand un léger bruit lui parvint de la chambre voisine où reposait le corps de Nakata. On aurait dit que quelque chose rampait sur les tatamis. Sauf qu'il n'y avait pas de tatamis dans cette pièce, mais de la moquette. Oshino leva la tête, tendit l'oreille. Pas d'erreur. Il ne savait pas ce qui produisait ce bruit étrange, mais il provenait à coup sûr de la pièce où reposait le cadavre. Le cœur du jeune homme se mit à battre à coups redoublés dans sa poitrine. Il passa le marteau dans sa ceinture, prit le couteau à découper le poisson d'une main, la lampe électrique de l'autre, et se leva. « Allons-y, » dit-il, sans s'adresser à personne en particulier. Il s'avança à pas de loup jusqu'à la porte de la chambre, l'ouvrit tout doucement, alluma la lampe de poche, dirigea aussitôt le faisceau vers le cadavre du vieil homme. C'est de là que provenait sans aucun doute possible l'étrange bruit de frottement. La lumière éclaira une chose blanche, longue et fine, dont la forme faisait penser à une calebasse qui sortait en ondulant de la bouche de Nakata. La moitié semblait déjà avoir émergé de la bouche du cadavre. Gros comme un bras d'homme, l'objet visqueux brillait d'un éclat blanchâtre. Comme la gueule d'un serpent, la bouche de Nakata était grande ouverte pour livrer passage à la chose. Il avait sans doute la mâchoire décrochée. Oshino déglutit bruyamment. La lampe tremblait légèrement dans sa main. « Allons bon. Comment je vais pouvoir tuer un truc pareil, moi » songea-t-il. Apparemment, la chose n'avait ni bras, ni jambes, ni nez, ni yeux. Son corps visqueux n'offrait pas la moindre prise. Comment est-ce que je vais pouvoir éliminer ça ? Et d'abord, de quelle sorte de créature s'agit-il ? Est-ce qu'elle était restée cachée tout le temps dans le corps de Nakata, comme une sorte de parasite ? S'agissait-il de l'âme de Nakata ? Non, c'était impossible. Oshino en avait l'intime conviction. Une chose aussi sinistre ne pouvait habiter le corps de Nakata, pas le Nakata qu'il avait connu. « Même moi, je suis assez intelligent pour comprendre ça », se dit-il. Non, cette chose avait dû pénétrer à l'intérieur de Nakata et essayer de passer à travers lui pour trouver l'entrée. Elle utilisait le corps de Nakata comme un passage, un corridor. Oshino ne pouvait pas laisser cette créature se servir de Nakata ainsi. « Il faut que je l'arrête. Comme l'a dit le chat noir, il faut que je l'élimine en concentrant toute ma haine, tout mon ressentiment sur elle. » Il s'approcha sans hésiter et planta le couteau à poisson à l'endroit où il imaginait que devait se trouver la tête de la créature. Puis, il le retira et frappa de nouveau. Il répéta ce geste plusieurs fois. Mais il n'avait pas l'impression que le couteau entrait dans de la matière. Il avait tout juste la sensation de piquer une lame dans un légume tout mou. Il n'y avait ni chair, ni squelette sous cette surface visqueuse, ni entrailles, ni cerveau. Quand il retirait le couteau, un liquide gluant recouvrait aussitôt la blessure, d'où ne sortait ni sang, ni lymphe. « Ce truc est complètement insensible !» se dit Oshino. Il avait beau le frapper, cette espèce d'ectoplasme blanc ne réagissait pas et continuait à sortir en se tortillant de la bouche du mort. Oshino lâcha le couteau à poisson, retourna dans le salon et prit cette fois le hachoir en forme de serpe. Tenant fermement le manche dans sa main, il abattit la lame de toutes ses forces sur le corps de la chose blanche. Ce coup fendit en deux ce qui semblait être la tête. Mais, comme le pensait Oshino, il n'y avait rien à l'intérieur, sinon la même matière molle et blanche que l'enveloppe extérieure. Oshino brandit cependant à nouveau son couteau plusieurs fois et parvint à réduire en pièces une partie de la tête. Les morceaux tranchés se recroquevillaient sur le sol comme des limaces, puis cessaient de bouger, apparemment morts. Cependant, cela n'empêchait nullement le reste du corps de continuer à progresser hors du cadavre. La partie blessée, bientôt recouverte de mucus, enfla et reprit sa forme. Elle continua à avancer comme si de rien n'était, sans même ralentir sa course. Bientôt, la totalité de la chose émergea hors de Nagata. Elle faisait près de 1 mètre de long et avait même une queue, grâce à laquelle Oshino put enfin distinguer l'avant de l'arrière. Une queue courte et épaisse, comme celle d'une salamandre, dont le bout s'affinait brusquement. La chose n'avait pas de pattes, ni d'yeux, ni de bouche, ni de nez. Mais elle semblait être animée par une volonté propre. Ou plutôt non. Elle était une volonté, songea Oshino. Ce n'était pas une déduction logique, simplement, il le savait. « Cette chose ne prend cette forme que lorsqu'elle se déplace », se dit-il. Et un frisson lui parcourut l'échine. Il fallait qu'il l'empêche d'aller plus loin. Cette fois, il s'attaqua à elle au marteau. Mais cela ne fut pas plus efficace. Quand le bloc de métal frappait un morceau de la créature, il y imprimait un creux profond qui se remplissait aussitôt de mucus et de peau molle et elle reprenait sa forme initiale. Oshino avait beau donner des coups de toutes ses forces, rien ne semblait pouvoir enrayer la progression de la chose. Elle n'avançait pas vite, mais se traînait sur le sol comme un serpent maladroit et se dirigeait vers la pièce voisine où se trouvait la pierre de l'entrée. Oshino comprit qu'il ne pourrait pas en venir à bout comme s'il s'agissait d'une créature ordinaire. Aucune arme ne pourrait l'arrêter. Elle n'avait pas de cœur dans lequel enfoncer un couteau, pas de gorge qu'il pourrait serrer entre ses mains pour l'étrangler. Que fallait-il donc faire? Quoi qu'il en soit, il fallait l'empêcher de parvenir à la pierre. Cette chose était démoniaque. « Quand tu verras, tu sauras !» avait dit le chat noir. Et il avait raison. On comprenait au premier coup d'œil qu'il ne fallait pas laisser cette chose en vie. Le jeune homme retourna dans le salon, chercha en vain ce qui pourrait lui servir d'arme. Son regard tomba soudain sur la pierre. « La pierre de l'entrée, je pourrais peut-être l'écraser avec !» Dans la pénombre, une légère lueur rouge semblait émerger de la pierre. Oshino se pencha, essaya de la soulever. La pierre était devenue si lourde qu'il était impossible de la faire bouger d'un centimètre. « Ça y est, te voilà redevenu la pierre de l'entrée !» s'exclama Oshino. « Ce qui signifie que si j'arrive à te retourner avant l'arrivée de l'autre monstruosité, elle ne pourra pas passer !» Il rassembla toutes ses forces et essaya à nouveau de soulever la pierre. Elle ne bougea pas. « Rien à faire !» dit Oshino en prenant une grande inspiration. « Hé, la pierre ! On dirait que tu es encore plus lourde que la dernière fois. Si j'essaie encore, je vais me décrocher les testicules !» Il entendit un froissement derrière lui. La chose blanche se rapprochait de plus en plus. Le temps pressait. « Allez, J'essaie une dernière fois, décida le jeune homme en posant une main sur la pierre. Il inspira profondément, emplit d'air ses poumons, bloqua sa respiration. Il mobilisa toutes ses forces, posa ses mains de part et d'autre de la pierre. Si je ne la soulève pas maintenant, je n'aurai plus d'autre occasion de le faire. C'est maintenant ou jamais, mon petit Oshino. Je suis prêt. Même si ça me tue, je vais y arriver. Il rassembla toutes les forces qu'il avait en lui et ébranla la pierre en poussant un gémissement. Elle se souleva d'abord un peu, puis Oshino l'arracha littéralement du sol. L'intérieur de son esprit devint tout blanc. Il avait l'impression que ses biceps allaient se déchirer. Ses testicules devaient déjà être tombés par terre, se disait-il. Mais il ne lâcha pas prise. Il pensait à Nakata. Nakata avait peut-être donné sa vie pour ouvrir et refermer cette pierre. Il fallait qu'il finisse la tâche.
« Tu as le pouvoir de le faire à sa place !» avait dit le chat noir.
Tous les muscles de son corps, eux, réclamaient un nouvel approvisionnement en sang. Ses poumons réclamaient désespérément de l'air pour pouvoir fabriquer ce sang. Mais il ne pouvait pas respirer. Il sentait qu'il n'avait jamais approché la mort de si près. L'abîme du néant s'ouvrait juste sous ses pieds. Cependant, il concentra une nouvelle fois ses forces et ramena la pierre vers lui. Il parvint à la soulever encore un peu et elle s'écrasa par terre avec fracas, retournée. Le choc fit trembler le sol. Les vitres frémirent. Oshino, assis par terre, haletait. « Tu as réussi, mon vieux !» se dit-il à lui-même un instant plus tard. Une fois la pierre refermée, il fut plus facile qu'il ne l'aurait cru de se débarrasser de l'ectoplasme. Il n'avait plus d'endroit où aller et semblait le savoir. Il avait cessé d'avancer, se traînait au hasard dans la pièce comme s'il cherchait un endroit où se cacher. Peut-être avait-il l'intention de retourner dans la bouche de Nakata, mais il n'avait plus assez de force. Le jeune homme se jeta à sa poursuite et le hacha menu à l'aide du couteau en forme de serpe. Puis il trancha ses morceaux en fragments encore plus petits. Les bouts blanchâtres se tortillèrent encore un moment par terre et cessèrent de bouger. La moquette, luisante de mucus, était jonchée de ces petits débris rigidifiés par la mort. Oshino les ramassa tous, les mit dans un sac poubelle dont il serra fermement le cordon. Puis il enveloppa le tout dans un sac en tissu épais qu'il avait trouvé dans un placard. Une fois cette tâche terminée, il s'accroupit par terre, vidé de ses forces. Une respiration haletante soulevait ses clavicules et ses mains tremblaient convulsivement. Il voulut dire quelque chose, mais il n'arrivait pas à parler.
« Tu as réussi, mon petit Oshino !» parvint-il enfin à articuler.
Son combat contre l'ectoplasme et le choc causé par la chute de la pierre avaient dû réveiller tous les voisins. Il craignait que quelqu'un n'ait prévenu la police. Mais il n'entendit pas de sirène, personne ne vint frapper à la porte. Ce n'était vraiment pas le moment que la police vienne fourrer son nez dans ses affaires. Il était sûr que les débris enfermés dans le sac poubelle n'allaient pas reprendre vie. Il n'avait nulle part où aller.
« Deux précautions valent mieux qu'une », décida-t-il cependant. « Dès l'aube, j'irai les brûler sur la plage près d'ici, pour qu'il n'en reste que des cendres. Et quand ce sera fait, je rentrerai à Nagoya. »
Il était près de 4 heures du matin. Le jour n'allait pas tarder à poindre. Il était temps de lever le camp. Oshino fourra ses vêtements de rechange dans son sac de marin. Par précaution, il laissa dans le sac sa casquette des Shunichi Dragon et ses lunettes de soleil. Ce serait trop bête de se faire alpaguer par la police au tout dernier moment. Il prit aussi une bouteille d'huile dans la cuisine afin d'allumer le feu. Juste avant de partir, il se rappela le CD du trio à l'archiduc et le mit aussitôt dans son sac. Ensuite, il alla voir une dernière fois Nakata. L'air conditionné fonctionnait toujours à la puissance maximale. La pièce était glaciale.
« Hé, Nakata, je m'en vais. Désolé, mais je ne peux pas m'attarder indéfiniment. Une fois à la gare, J'appellerai la police et je leur dirai de venir chercher ton cadavre. Ta famille ou la police s'occupera de toi. Je ne pense pas qu'on se reverra, mais je ne t'oublierai pas. De toute façon, même si je le voulais, je ne le pourrais pas. »
L'air conditionné s'arrêta brusquement avec fracas.
« Tu sais ce que je me dis, papy ? Je crois bien que désormais, quand j'aurai des ennuis, je penserai à toi. Je me demanderai ce que tu aurais dit ou fait à ma place. Ce n'est pas rien, tu sais. Parce que, en un sens, c'est comme si une partie de toi continuait à vivre en moi. Bon, d'accord, je ne suis pas à l'enveloppe idéale, mais c'est mieux que rien, non ?»
Cependant, il le savait bien, c'est à une coquille vide qu'il s'adressait. Nakata, lui, était parti depuis longtemps déjà vers un autre lieu. Il se tourna ensuite vers la pierre et posa une main dessus. Elle était redevenue une pierre ordinaire, à la surface froide et rugueuse.
« Hé, la pierre, je te dis adieu. Je retourne à Nagoya. Je te confie à la police, comme Papi Nakata. Le mieux aurait été que je te rapporte dans ton sanctuaire. Mais je ne me rappelle absolument pas où était ce temple. Excuse-moi, hein ? Ne me jette pas un sort pour autant. Je me suis contenté de faire ce que m'a dit le colonel Sanders. Si tu dois jeter un sort à quelqu'un, c'est à lui, pas à moi. En tout cas, je suis ravi de t'avoir connu, la pierre. Je ne t'oublierai pas, toi non plus. »
Oshino chaussa ses Nike à semelles épaisses et quitta l'appartement sans fermer la porte à clé. Il tenait son sac de voyage dans la main droite et, dans la gauche, le sac poubelle contenant les débris de l'ectoplasme.
« Allez les potes, on va faire un beau feu de joie !»
lança-t-il en levant les yeux vers le ciel qui commençait à s'éclaircir à l'est.